RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'RBC World, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La Suisse encourage l'achèvement de la discussion sur CEPA. L'ambassadeur d'Indonésie et l'Université d'Indonésie étudient l'entrée de l'islam en Indonésie depuis Azerbaïdjan. L'ambassade d'Indonésie à Moscou organise à nouveau le festival indonésien. Le ministre des Affaires étrangères propose le concept Indo-Pacifique Indonésie à l'ASEAN. L'Indonésie apprécie les efforts de la Russie pour un accès durable au marché. Le séminaire Indonésie-Japon explore les relations futures. Le séminaire Indonésie-Japon explore les relations à l'avenir. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet.
L'ambassadrice de la Suisse en Indonésie, Yvonne Bowman, a encouragé l'achèvement de la discussion de l'accord de coopération économique globale, ou CEPA, entre l'Indonésie et la Suisse. L'achèvement de la discussion sur la CEPA renforcera la coopération économique entre les deux pays. Yvonne Bowman à Jakarta, mercredi 1er août, a déclaré que la Suisse était actuellement un pays de l'Union européenne avec le troisième plus grand investissement en Indonésie. Les négociations sur l'accord de coopération économique globale, ou CEPA, ont besoin d'un peu de la poussée finale qui renforcera notre coopération économique en Indonésie. L'ambassadrice Yvonne Bowman a ajouté que l'Indonésie était un pays partenaire important pour la Suisse. L'Indonésie joue un rôle important dans la région et sur la scène internationale avec la plus grande population musulmane et un système démocratique qui fonctionne bien. Les deux pays ont signé une coopération de 4 ans axée sur le développement de l'enseignement professionnel et la formation en Indonésie. L'ambassadrice Yvonne Bowman s'est également engagée pour continuer à augmenter l'arrivée des touristes suisses qui ont augmenté en 2017 de 12% par rapport à l'année précédente. L'ambassadeur indonésien en Azerbaïdjan, Husnan Bey Fanani, et 4 chercheurs de la Faculté de la Culture Scientifique de l'Université d'Indonésie, Maman S. Mahayana, Bastian Zulieno, Gilman Asilmi et Haidir Asari, étudieront l'entrée de l'islam en Indonésie à Azerbaïdjan. Selon l'agence de presse Antara, L'ambassadeur Husnan a déclaré mercredi que l'étude est liée à la similitude culturelle qui a été inventée en Indonésie et en Azerbaïdjan, qui a montré la grande possibilité d'influence du Caucase dans le procès de l'entrée de l'islam à l'Indonésie. Bastian Zolieno, qui avait fait des recherches préliminaires, a dit qu'il y avait une relation entre les populations de l'Indonésie et de l'Azerbaïdjan. Cela peut être vu à partir de la similitude des vieilles pierres tombales qui sont dans les deux pays, en particulier à Barus, au nord de Sumatra et à Aceh. L'ambassade d'Indonésie à Moscou, la Russie, accueillera de nouveau le troisième festival d'Indonésie du 3 au 5 août. Le premier secrétaire sur les fonctions de l'information sociale et la culture de l'ambassade d'Indonésie à Moscou, Anjay Diana, a déclaré que le festival indonésien avec le thème « Visiter merveilleuse Indonésie, explorer nos régions » était l'événement de promouvoir du commerce, l'investissement, le tourisme et l'art culturel intégrés dans le cadre de la diplomatie économique de l'Indonésie en Russie. Le festival présentera les produits phares de l'Indonésie de la région comme le café, le vêtement, l'accessoire, l'huile de palme, la cuisine indonésienne et de l'artisanat répartis sur 85 stands. Selon Anjay Diana, la cible des visiteurs du festival indonésien qui aura lieu au parc Krasnaya Presnya atteint 120 000 personnes. L'ambassadeur de l'Indonésie à la Fédération de Russie et la République de Bélarus, M. Wahid Supriyadi, souhaite que le troisième festival indonésien puisse améliorer la coopération entre les deux pays.
Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a apporté le concept Indo-Pacifique-Indonésie lors de la 51e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Singapour. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi a déclaré que la ministre Retno Marsudi a assisté à la 51e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN et d'autres réunions connexes à Singapour du 1er au 4 août 2018. L'un d'entre eux est le forum des ministres des Affaires étrangères des États membres du sommet de l'Asie de l'Est. Lors de la réunion, la ministre Retno a exprimé l'intérêt de l'Indonésie pour le renforcement de la coopération dans la région Indo-Pacifique. La question de l'Indo-Pacifique est une question stratégique pour l'Indonésie et l'ASEAN, qui se situe au centre ou comme axe des deux régions, à savoir l'océan Indien et l'océan Pacifique. Le gouvernement indonésien offre un point de vue sur la région Indo-Pacifique qui vise à renforcer la coopération dans le domaine maritime, la connectivité et l'agenda de développement durable. Le concept indonésien sur Indo-Pacifique vise à donner une valeur ajoutée au mécanisme de coopération de l'ASEAN, notamment pour renforcer le sommet de l'Asie de l'Est. L'Indonésie apprécie les efforts du gouvernement russe pour un accès durable au marché, et cette collaboration sera participée par des parties prenantes en Russie, notamment dans la gestion des campagnes noires sur l'huile de palme indonésienne. Cela a été dit par le secrétaire de la Direction générale de l'Amérique et de l'Europe, Ratu Sylvie Gayatri, en tant que conférencier d'honneur dans la discussion sur l'huile de palme qui a eu lieu au Forum des affaires Russie-Indonésie. Le thème de la discussion est l'huile de palme indonésienne de haute qualité, applications et problèmes actuels. Selon Mme Sylvie Gayatri, l'huile de palme joue un rôle très important dans le développement économique de l'Indonésie car elle a un impact direct sur le bien-être de la population et la réduction de la pauvreté. L'huile de palme est une source de revenus pour environ 4,2 millions d'emplois directs et améliore les moyens de subsistance d'environ 2,3 millions de familles agricoles. Pour cette raison, le gouvernement et les entités commerciales en Indonésie considèrent que la coopération avec la Russie dans le secteur de l'huile de palme est très importante et doit être promue. Un séminaire historique sur les relations entre l'Indonésie et le Japon pour commémorer le 110e anniversaire du réveil national et 60 ans des relations entre les deux pays devrait permettre d'explorer le potentiel d'une coopération culturelle plus forte à l'avenir. Cela a été dit par le directeur de l'histoire du ministère de l'Éducation et de la Culture, Triana Wulandari, lors de son discours de l'ouverture des expositions et séminaires historiques indonésiens et japonais à Jakarta jeudi. Triana a déclaré que les relations entre l'Indonésie et le Japon ont été marquées par l'entrée du Japon en Indonésie de 1942 jusqu'à 1945 et en 1958, lors les deux pays ont établi des relations diplomatiques. Mais en réalité, les relations entre les deux pays ont été établies avant cette période. Elle a déclaré que la victoire du Japon sur la Russie en 1905 ont inspiré les dirigeants du mouvement national indonésien à se soulever contre le colonialisme hollandais à cette époque-là et exiger le droit à l'indépendance. Triana Wulandari souhaite que le séminaire historique puisse évoquer des souvenirs collectifs sur les relations entre l'Indonésie et le Japon afin de renforcer le caractère de la nation et renforcer la coopération culturelle entre les deux pays. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'Indonésie doit lutter pour l'idée de l'Indo-Pacifique ». Lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, ou AWM, qui s'est ouverte jeudi le 2 août 2018, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, luttera pour l'idée de l'Indo-Pacifique à travers de l'explication plus détaillée dans l'AWM qui durera jusqu'à samedi prochain. L'Indonésie utilisera également la réunion des pays membres de l'ASEAN avec les partenaires du dialogue pour confirmer et faire progresser les intérêts nationaux sur diverses questions prioritaires. L'idée Indo-Pacifique a été lancée par l'Indonésie après avoir regardé la menace de combat des principaux pays d'Asie-Pacifique et de l'océan Indien comme les États-Unis, la Chine et l'Inde, l'Australie et le Japon qui influenceront l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie souhaite que la question de l'Indo-Pacifique soit discutée lors du sommet de l'Asie de l'Est, qui est également suivi par ses principaux pays le 4 août 2018. La ministre Retno expliquera également les intérêts de l'Indonésie concernant le renforcement de la coopération dans la région Indo-Pacifique. La question est une chose stratégique pour l'Indonésie et la région de l'ASEAN, située au milieu ou comme axe des deux régions, à savoir l'océan Indien et l'océan Pacifique. L'Indonésie offrira un aperçu de la zone Indo-Pacifique qui vise à améliorer la coopération dans les domaines du transport maritime, de la connectivité et du développement durable. Le concept indonésien vise à donner une valeur ajoutée au mécanisme de coopération de l'ASEAN qui était disponible de nos jours, en particulier pour renforcer le sommet de l'Asie de l'Est. Fondamentalement, le concept Indo-Pacifique est lancé pour optimiser l'architecture existante, n'est pas pour former la nouvelle architecture dans la région. L'ASEAN est en fait le bon endroit pour soulever l'idée Indo-Pacifique avec les valeurs inclusives, la coopération et le dialogue. En plus de 50 ans d'existence, l'ASEAN ne menace jamais aucune partie et n'a aucune tradition de confrontation. Par la tradition du dialogue, l'ASEAN veut transmettre aux grands pays pour accentuer la discussion en résolvant les différents intérêts. L'ASEAN doit améliorer la capacité de gestion de crise, notamment en résolvant plus rapidement les conflits et les droits de l'homme. Les efforts du ministère indonésien des Affaires étrangères doivent continuer à faire de sorte que le concept Indo-Pacifique soit plus pertinent pour créer la paix et la sécurité régionale, non seulement dans la région du Pacifique, mais aussi dans la région indienne. Le soutien des pays de l'ASEAN est nécessaire pour que le concept puisse être réalisé et apprécié par tous les pays des deux régions. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 3 août. Le 3 août 1960, l'indépendance du Niger. La fête de l'indépendance en République du Niger a été commémorée le 3 août, marquant l'indépendance de la nation nigérienne de la France en 1960. La République du Niger est un pays enclavé d'Afrique occidentale. Le Niger borde le Nigeria et le Bénin au sud, le Mali à l'ouest, l'Algérie et la Libye au nord et le Tchad à l'est. Le nom de ce pays provient du fleuve Niger. En plus de son enclavement, le Niger est confronté à de sérieux défis en matière de développement, de l'éducation et de pauvreté, de manque d'infrastructures, de soins de santé médiocres et de divers problèmes environnementaux. Depuis l'indépendance, le Nigeria a vécu sous 5 constitutions et 3 périodes de régime militaire. Après le coup d'État militaire de 2010, le Niger est devenu un pays démocratique et multipartite. Le 3 août 2005, Mahmoud Ahmadinejad a été assermenté à la présidence de l'Iran. Mahmoud Ahmadinejad est le 6e président iranien. La présidence a commencé le 3 août 2005. Il est largement connu comme un leader conservateur qui est très fidèle aux valeurs de la révolution islamique d'Iran. Pendant la guerre Iran-Irak, Ahmadinejad a rejoint le corps des gardiens de la révolution islamique en 1986. Il est ensuite devenu ingénieur en chef du 6e corps d'armée et le chef d'état-major du corps à l'ouest de l'Iran. Après la guerre, il a servi comme vice-gouverneur et gouverneur de Makou et de Koy, conseiller auprès du ministre de la Culture et des Enseignements islamiques et le gouverneur de la province Ardabil de 1993 à octobre 1997. Ahmadinejad a été élu maire de Téhéran en mai 2003. Dans son mandat, il retourne de nombreux changements faits par les maires précédents qui est plus modéré et réformiste et attache une importance des valeurs religieuses dans les activités des centres culturels. Après 2 ans en tant que maire de Téhéran, Ahmadinejad a été élu comme nouveau président de l'Iran. Dans l'élection présidentielle iranienne 2013, il a été remplacé par un chiffre conservateur modéré, Hassan Rouhani. Le 3 août 2005, l'armée mauritanienne a renversé le président Mouya Ould Sidd Ahmed Taïa. Les soldats et les membres de la guerre présidentielle en Mauritanie ont lancé un coup contre le président Mouya Ould Taïa. Le coup d'État a été lancé lorsque le président Mouya était en Arabie Saoudite pour les funérailles du roi Fahd. L'armée a pris le contrôle des quartiers généraux des forces armées, ainsi que des chaînes de télévision et des stations de radio du gouvernement. Lorsqu'il a quitté le pays pour visiter les funérailles du roi Fahd en Arabie Saoudite au début du mois d'août 2005, l'armée a déclaré détenir des médias d'État. Un groupe appelé le Conseil militaire pour la justice et la démocratie a annoncé un coup d'État dans une déclaration faite le 3 août 2005 par l'agence de presse d'État. La dictature militaire sera annoncée pour 2 ans afin de préparer la mise en place d'institutions démocratiques. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers fidèles auditeurs, nous continuons notre émission avec mon Indonésie ayant pour le titre Pertamina gère le bloc Rokan. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, a décidé de confier la gestion du bloc Rokan à Pertamina. Auparavant, le bloc pétrolier et gazier de Riau était géré par PT Chevron Pacific Indonesia, une filiale du géant pétrolier et gazier mondial Chevron, depuis 1971. Le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, mercredi à Jakarta, a déclaré que la considération de choisir Pertamina était effectivement faite dans les affaires, de sorte que l'opérateur précédent, Chevron Indonésie, qui a offert le manque d'avantages au pays, a dû perdre. Luhut a expliqué que le bloc Rokan était le grand actif dans le secteur pétrolier et gazier parce que sa réserve était grande. De plus, si nous pouvions appliquer la nouvelle technologie. Il a affirmé que Rokan avait encore 1,2 milliard barils de pétrole qui pourraient être pris. Pendant ce temps, PT Pertamina a salué la décision du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales qui avait spécialement donné le droit à la gestion du bloc Rokan. C'est ce qu'a déclaré Nike Widiawati, directrice de PT Pertamina, lors du 9e Forum Merdeka Barat intitulé « Maintenir de la disponibilité du pétrole et du gaz » à Jakarta, mercredi le 1er août. Nike était prête à gérer le bloc pétrolier et gazier le plus prospère d'Indonésie, qui avait une capacité de production de plus de 210 000 barils de pétrole par jour, ou BOPD. Elle a déclaré que tout le résultat de production de bloc Rokan tomberait dans la raffinerie de Pertamina, ce qui réduirait les exportations de pétrole brut pour le besoin de production de mazout raffiné et d'autres produits transformés de pétrole brut. Nike a estimé que la réduction de l'exportation de pétrole brut pourrait sauver les devises étrangères indonésiennes jusqu'à 4 milliards de dollars américains par an.
Dengan adanya WKWK itu dikelola oleh Pertamina, maka 100% produksinya itu bisa.
Par la zone de travail gérée par Pertamina, 100% de la production tombera dans la raffinerie de Pertamina. Il n'y a rien à exporter. Cela affectera donc l'accessibilité financière. En effet, entre le prix d'achat à l'importation et le prix d'achat d'un produit en amont sur le marché national, nous sommes très différents lorsque nous comptons le Rokan. Nous comptons non seulement sur l'économie du lieu de travail après 20 ans. Nike Widiawati a ajouté qu'en gérant le bloc de Rokan, Pertamina pourrait réaliser l'autonomie énergétique du pays parce qu'il y a une nouvelle offre du bloc qui fonctionne depuis plus de 90 ans. Le résultat de production totale de 100% est tombé à Pertamina pour satisfaire le besoin de pétrole dans le pays, qui dépend actuellement encore de l'importation. En outre, par la gestion du bloc de Rokan, la puissance des recettes du pays pour 20 ans de gestion atteindra sengkang set miliar dolar Amerika soang wikong wisang weng sentriliong kupiah. Pour votre information, le bloc rokan qui comprend actuellement le principal champ pétrolier, à savoir Doré et Minas, était géré par PT-Chevron Pacific Indonesia, une filiale du géant américain de pétrole et de gaz Chevron. Le contrat de la société expirera dans les 2021 prochains. En référence au rapport annuel de 2017, PT-Chevron Pacific Indonesia est devenu le deuxième contributeur à la production après la Thaïlande pour le holding américain. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Raise the energy, you'll shine.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec Le Magazine Culturel, introduisant la belle plage Matisili. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix de l'Indonésie. Nusa Tenggara West a de nombreux sites touristiques intéressants, en particulier les belles plages et le sable blanc. Cette fois, nous allons présenter l'une des plages qui est assez célèbre, la plage Silimachi, qui est située à la frontière de Sumbawa Dumpu, district Tarano. Machi Sili est en fait le nom de deux plages, à savoir la plage Machi et la plage Sili. Parce que l'emplacement est proche, elles sont souvent combinées. Ces deux plages peuvent être atteintes par voie terrestre, avec un voyage d'environ 6 heures de la ville Sumbawa Besar. Les deux plages sont très populaires comme un endroit pour surfer et chaque année, avec la régence Dumpu, organise une compétition du surf de classe mondiale. Les autres vagues sur la plage Mati peuvent être utilisées comme point de surf, mais seulement pendant 7 mois, de mai à novembre, et les vagues de pointe sont en août. La beauté de la plage à Sumbawa mérite un coup de pouce. Sur le chemin vers les sites touristiques Machi et Sili, dans le district de Tarano, Sumbawa, nous pouvons profiter de beaux paysages naturels et divers espèces d'oiseaux et d'autres animaux sauvages. Dans ce lieu touristique, nous pouvons également trouver différents types d'animaux tels que les tortues vertes. La location des plages Machi et Sili est en effet un peu loin. De plus, l'emplacement de l'île de Sumbawa, qui est située à l'est de Lombok, ne fait pas venir beaucoup de touristes à cet endroit. Habituellement, ceux qui viennent aux plages Machi et Sili sont des amateurs de surf. Les plages de Sumbawa sont en effet réputées pour gâter les surfeurs. Bien que l'emplacement est à une certaine distance, mais les plages Machi et Sili continuent de se embellir en construisant de grands hôtels et centres de villégiature et d'autres installations. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs dans le monde entier. Voici l'Indonésie en couleur. Et pour le titre, le Festival d'Indonésie à Moscou. Chers auditeurs, l'ambassade d'Indonésie à Moscou organise du 3e Festival indonésien au Parc Krasnaya au centre-ville de Moscou du 2 au 5 août. Cette activité est une agenda de promouvoir le commerce, l'investissement, le tourisme et les arts culturels et dans le cadre de la diplomatie économique d'Indonésie en Russie. Le festival initié par l'ambassade indonésienne à Moscou présente des expositions sur les produits d'excellence d'Indonésie provenant de régions telles que le café, les vêtements, les accessoires, l'huile de palme, les alimentations de l'archipel et l'artisanat distribués sur 85 stands. Au festival indonésien, divers spectacles artistiques et culturels de régions telles que des chansons, des danses et des instruments de musique peuvent être exécutés sur la scène principale ainsi que plusieurs scènes séparément. L'ambassadeur de l'Indonésie en Fédération de Russie en tant que République de Belarus, M. Hespriadi, a déclaré que le festival indonésien était cette fois-ci plus spécial comme le lieu du festival plus élargi que celui-ci auparavant. Au festival indonésien, le visiteur découvre une mini Indonésie.
Festivalnya sendiri 3 sampai 5. Itu jam 12 sampai 9 non-stop. Itu pertunjukan seni budaya.
Le festival se déroule du 3 au 5 août de 12h à 9h consécutivement. Il s'agit d'une performance d'art et de culture. Mais de notre côté, nous allons également créer comme marché différent de l'année dernière par région. Maintenant, nous faisons par cluster. Donc, par exemple, il y a le batik, puis il y a le mode en artisan, en culinaire qui continue jusqu'au 21h. Le festival d'Indonésie à Moscou commence avec le Forum des affaires Indonésie-Russie et la correspondance des affaires le 2 août au World Trade Center. En outre, le vice-gouverneur, le président et plusieurs responsables régionaux indonésiens, le Forum des affaires est associé et ouvert par le chef de l'Agence nationale de planification du développement national, Bambang PS Brojonegoro. Ce forum est assisté à environ 500 entrepreneurs russes et indonésiens. L'infrastructure à l'appui du tourisme est le principal objectif des activités du Forum des affaires. Les autres secteurs seront également discutés dans ce forum, tels que l'énergie, l'industrie, les transports et l'huile de palme. Serviteurs, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve encore avec moi Tiwi dans la rubrique du magazine musical. Cette édition va vous présenter les chansons régionales de Bangka Belitung. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Commençons notre édition en écoutant la chanson de Habli Noor dont le titre Kuta Lama. Cette chanson parle d'une ville de Muntok, la capitale de la région de Bangka de l'Ouest. Les auditeurs, voici la chanson intitulée Kuta Lama, chantée par Habli Noor.
Thank you. La
Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Habli Noor s'intitulant « Kuta Lama ». Par les paroles, on raconte que Muntok est une ville historique à l'extrémité ouest de l'île de Bangka. Là, il y a beaucoup de lieux historiques tels que Masjid Lama ou la vieille mosquée, Klenteng China ou le temple chinois et Makam Raja, le tombeau du roi. La ville a également été enregistrée comme un lieu d'exil de Bung Karno et Bung Hatta, les deux proclamateurs l'indépendance d'Indonésie. La chanson est généralement utilisée comme une chanson en concours pour commémorer l'anniversaire de la ville de Muntok, qui contient également des messages et des conseils qui a dit que les jeunes devraient aimer et conserver l'histoire et la culture de la ville de Muntok. Les auditeurs, l'autre chanson de province de Bangka Belitung à écouter s'intitule Mandi Dak Besabun. C'est une chanson régionale de la région de Bangka du Sud chantée par Hamsan Gober. Les paroles contiennent des conseils qui invitent les jeunes à ne pas être paresseux au travail et à bien se protéger. Bon les auditeurs, écoutons la chanson s'intitule Mandi Dak Besabun.
Bangka Selatan, ngapai kita berpangku tangan? Jangan kita males-males begawi. Ingat pesan orang tua kita, pacak-pacak lah ika ngejaga diri. Semakin tinggi semakin dipuji. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Tur kemuning lentur, ku remes lentur kerana buah. Biar habang hancur, hai hancur lebur. Cuba kengantang dakkan berubah. Ingatlah ingat pesan kerio, panting menek selamat kepala dak pening. Kelapo muda, kelapo tue, kelapo tue pacak dikukur. Hai orang muda, ita di mane, cubelah kini ita beguyur. Jangan sampai ditinggal. Kita ngelimbang, kinyare timah. Jangan sampai dahada. Yo kita kena junjung behau. Hame henang, yo hame haro. Yo kita kena junjung behau. Menek henang, jangan takut haro. Bangka Selatan, ngapai kita berpangku tangan? Jangan kita males-males begawi. Ingat pesan orang tua kita, pacak-pacak lah ika ngejaga diri. Semakin tinggi semakin dipuji. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu.
dari sungai Labun naik ke Rito. Biar dak behabun tapi makai hampu. Jangan sampai keliwat. Menikah kelak lah jadi orang, janganlah makan hurang. Yo kita kenang junjung behau, hame henang yo hame haro. Yo kita kenang junjung behau, menek henang jangan takut haro. Kelapo muda, kelapo tue, kelapo tue pacak dikuku. Hai orang muda, kita di mana? Cubilah kini, kita beguyur. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu.
Voilà la chanson Mandidak Besabun de Hamsan Gober. Pour terminer l'édition du magazine musical cette fois, je vous donne une chanson intitulée Alam Wisata Pulau Bangka, ou en français, Le lieu touristique de l'île de Bangka. Cette chanson régionale de la communauté de Bangka raconte de la beauté de l'île de Bangka, de la mer à la terre. Il est dit que l'île de Bangka a des plages de sable blanc et de la mer bleue et propre. N'importe qui vient ici, ils seront heureux. Alors les auditeurs, merci d'écouter la voix de l'Indonésie et j'espère que les chansons données aujourd'hui enrichissent vos connaissances sur les chansons indonésiennes. Bonne écoute et à la prochaine!
Banyak perahu
C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.